France Inter, le 18-20.
12 morts donc dans l'Aude après ces crues provoquées par des pluies diluviennes ces dernières heures. Le bilan n'est pas encore définitif évidemment, mais ce chiffre, il vient hélas s'additionner après d'autres. Vous avez peut-être en tête les 20 morts de 2015 dans les Alpes-Maritimes, dont 7 personnes bloquées dans leur parking de Mandelieu-la-Napoule. Souvenez-vous de l'automne 2014, 14 épisodes d'inondations successifs, c'est ce que rappelait l'agence France Presse ce soir, et 17 morts en tout, 23 morts en 2010, cette fois c'était dans le Var, etc. etc. Des épisodes cévenols, désormais on sait ce que c'est, on le réexpliquera d'ailleurs probablement, mais des phénomènes aussi meurtriers, est-ce bien normal? Est-ce qu'on peut juste parler de caprice de la météo? Faut-il aller chercher donc du côté du changement climatique? On répondra une bonne fois pour toutes à cette question. Et quand bien même d'ailleurs, comment se fait-il que l'on soit surpris chez soi par une crue? Comment fonctionnent les alertes? Est-ce qu'on doit vraiment être surpris par les quantités d'eau? Est-ce qu'on ne sait pas prévoir cette quantité? Faut-il plutôt regarder du côté de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire? Qu'est-ce qu'on apprend d'une inondation à l'autre? Beaucoup de questions ce soir, alors que vous l'avez entendu dans la météo, les épisodes de grosses pluies sont quasiment terminé, mais pas tout à fait quand même. Bienvenue dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Saint-Ès. Le Téléphone Sonne.
Valérie, c'est vous qui commencez. Soyez la bienvenue sur France Inter. Bonsoir Valérie.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les interlocuteurs. Je voulais témoigner de la réalité des épisodes saisonnels ou peut-être simplement des zones prémontagneuses des littoraux, puisque le même épisode de saisonnel est intervenu dans les Corbières le 10 novembre 1999 et n'a pas peut-être pas touché la zone de Carcassonne au nord de Carcassonne, mais plus en aval les régions d'Urbain-Corbière, Narbonne, Lézignan-Corbière, avec également des morts, des exploitations viticoles et des maisons endommagées et une région sinistrée pendant de nombreux mois. Alors, je vais poser très directement la question, est-ce simplement une question de météorologie, de changement climatique ou également de formation et de compétences des élus et des autorités préfectorales ou étatiques locales dans ces zones où, à forte, je dirais, changement de densité de population ou dans tous les cas où on a laisser déforester, enlever des vignobles, enlever des installations qui pouvaient retenir la pluie, même si on a amélioré les digues et les apports de certaines rivières à haute crue, comme l'Aude, l'Orbieu, dans ces régions-là,
merci.
Ou d'autres zones dans le Gard ou dans la région PACA.
Merci Valérie, merci pour cette entrée en matière et pour vous répondre, essayez de vous répondre et restez avec nous en tout cas jusqu'à 20h. Alix Roumaniac est là avec nous par téléphone depuis Montpellier, par téléphone parce qu'il est dans une cellule de crise en ce moment. Évidemment, présidente de Predict, Alix Roumaniac, vous êtes expert dans la prévention des risques naturels. Éric Daniel Lacombe est avec nous, bonsoir. Vous êtes architecte spécialiste des risques naturels. On parlera aussi avec le commandant Michael Bernier, qui est responsable communication de la sécurité civile, au téléphone avec nous également. Et puis, on espère, c'est compliqué évidemment de le joindre au téléphone, qu'on aura Michel Proust au téléphone, qui est le maire de Villegaillin, qui déplore deux morts chez lui. Nous expliquera aussi peut-être comment la prévention a pu se faire, les alertes ont pu se faire. C'est pour vous, Monsieur Bernier, commandant Michael Bernier de la Sécurité Civile, peut-être la première question de Valérie. On a l'impression que ces épisodes, on le sait, ils sont réguliers, ils se répètent. Est-ce qu'on est toujours à la hauteur, finalement, ou est-ce qu'on les découvre quand ils nous arrivent dessus, si je puis dire les choses comme ça?
Bonsoir. Tout d'abord, c'est lieutenant-colonel, pas commandant, mais ce n'est pas bien grave. Ces épisodes.
Mais je corrige, monsieur Bernier.
C'est pas grave. Ces épisodes reviennent effectivement, maintenant on les voit régulièrement. Vous dire qu'on puisse toujours les prédire et savoir la quantité qu'ils auront, je laisserai les spécialistes de la météorologie vous répondre. En tout cas, nous, à la sécurité civile, effectivement, nous devons répondre à ce qui s'est passé, aux conséquences de ces événements, particulièrement en matière de secours, comme ça s'est passé aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il y a des changements des climatiques dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? C'est pas moi qui suis le technicien, on va dire, météorologie et réchauffement climatique qui vous répondrait.
Non, vous, effectivement, on va poser la question à Alix Roumaniac dans un instant, mais vous, côté sécurité civile, puisque vous allez chercher les gens très concrètement, puisque les secours, c'est vous, est-ce que des fois, vous vous dites, je devrais pas être en train d'aller récupérer ces gens à cet endroit-là, parce qu'on aurait dû, à un moment, leur demander de partir, et si on ne leur a pas demandé de partir, c'est peut-être parce qu'on ne sait toujours pas comment évaluer la grosseur de l'événement qui va se produire.
Alors, c'est très compliqué d'évaluer effectivement l'événement avant qu'il soit arrivé. Souvenez-vous l'année dernière des cyclones à Saint-Martin, d'Irma, avec les conséquences énormes qu'il y a eu. Par contre, vous dire qu'on ne devrait pas y être, c'est pas aussi simple que ça, parce que vous avez des fois des phénomènes à des endroits où on les attend pas. Ça arrive aussi. Des phénomènes qui sont d'une violence... d'une violence inattendue, mais vraiment inattendue par rapport à ce qui avait été prévu, pour des raisons physiques, météorologiques. Donc nous, on n'a pas cette question-là dans les secours. À partir du moment où on est déclenché, on y est préparé, on y est formé, et on va chercher cette population qui a besoin de nous, on va l'aider au moment où elle a besoin de nous. Et effectivement, ça nous oblige par contre à avoir des troupes très entraînées, très formées dans tous les domaines. Aujourd'hui, par exemple, nous avons engagé, en dehors des moyens aériens nationaux, les hélicoptères, nous avons aussi engagé des équipes de sauvetage en eau vive qui sont préparés à ce genre de mission au cas où elles arrivent, quelle que soit, on va dire, la grandeur de l'événement ou la catastrophe que ce soit, nous sommes prêts à y répondre sans véritablement se poser la question de dire on ne devrait pas être là. On n'est pas dans ces moments-là, on n'est pas à ces missions-là, à se poser ces questions de notre présence est-elle justifiée ou justifiable.
Une dernière chose pour vous, lieutenant-colonel Bernier, avant qu'on repasse évidemment à une autre question. Est-ce que, vous le disiez, ces phénomènes sont de plus en plus réguliers et vous, effectivement, vous devez être là. Est-ce que vous êtes formé différemment, sachant qu'aujourd'hui, vous savez effectivement que ces phénomènes sont plus réguliers et que la puissance des eaux est réellement forte? Est-ce que vous êtes mieux formé, différemment formé désormais?
Ah, les sapeurs-pompiers, les sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile, les militaires des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile sont vraiment formés, alors avec les nouveaux matériels aussi, les matériels qu'on possédait il y a 10 ans pour intervenir dans ce type de catastrophe ne sont plus les mêmes que ceux qu'on a maintenant, les techniques ont aussi évolué, et puis vous le disiez, le rapprochement de ces événements fait que de plus en plus on forme du personnel en quantité, des personnels pointus, qui est capable d'intervenir rapidement avec les bons gestes pour aller chercher les personnes, mais aussi pour travailler en sécurité, parce qu'il faut pas non plus cacher le fait qu'aujourd'hui, vous avez vu comme moi dans les médias, le débit des rivières, les courants qu'il y avait, et on peut pas s'engager au hasard dans ce type d'événement. D'ailleurs, cette année encore, là, en début d'année, la sécurité civile avait été frappée avec le décès d'un sapeur-pompier qui était lors d'une opération de sauvetage tombé dans un courant d'un torrent et qui avait laissé la vie. Donc vraiment, les personnels qui interviennent sont formés, équipés pour, et ils évoluent avec des technologies, ils évoluent en fonction aussi, je vous le disais, de la fréquence de ce type d'intervention.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel. Vous restez avec nous, évidemment. Alix Roumaniac, vous qui êtes le président de Prédict, la question qui revient souvent, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec la question de Valérie, c'est comment se fait-il que ce soit si soudain et si rapide et qu'on soit en incapacité finalement de se dire ça va être extrêmement grave ou finalement passable? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'affiner beaucoup plus pour pouvoir demander aux gens de quitter leur maison, tout simplement?
Oui, les progrès qui sont faits d'une année sur l'autre, que ce soit par les modèles de prévision de Météo France, par la fourniture des éléments de radar, progressent. Par contre, ce qui est difficile à accepter, c'est qu'on ne sache pas 24 heures à l'avant précisément que les pluies les plus fortes vont se situer entre Pénautier...
Ou même pas 24 heures d'ailleurs, même 12 ou 6 heures, ça suffit en général pour demander aux gens de bouger en fait.
On se rend compte que ce sont des événements qui sont générés par des événements très très larges. On l'a dit et redit là ce week-end, c'était un système, on avait un cyclone tropical qui arrivait sur le Portugal et l'Espagne qui s'appelait Leslie, qui s'est prolongé dans le golfe du Lion. On avait le cyclone Michael qui rentrait sur l'Espagne. Et ces gros systèmes qui traversent l'Atlantique qui sont venus impacter ce phénomène. Donc 12 heures avant, dire qu'à 2 km près entre Conques-sur-Orbiel ou Lormes-Minervois, ça va plutôt toucher à 2h32 Conques-sur-Orbiel ou Lormes-Minervois, c'est très compliqué, voire impossible en termes de prévision. On n'est pas dans la même échelle. Donc il faut travailler de manière progressive. Hier, une vigilance orange avait été produite par Météo France pour avoir été avec beaucoup d'élus des Pyrénées-Orientales. orientale, de l'Aude, de l'Hérault, du Tarn, hier toute la journée, toute la nuit. Les élus étaient, par rapport à l'intervention introductive de notre auditeur, de notre auditrice, les élus étaient hier soir sur le pont, comme l'a indiqué le lieutenant-colonel Michel Bernier, la sécurité civile a été en contact avec nous en préfecture. La seule chose, c'est que l'événement qui est arrivé un petit peu plus tôt que prévu, hein, puisque Météo France avait bien vu des zones de précipitation importantes qui devaient commencer vers 4h, 5h du matin, se terminer à 11h. Mais en fait, elles ont commencé à 10h du soir et elles ont terminé à 4h du matin. Donc à 4h du matin, dans des situations météorologiques dantesques, puisque les précipitations étaient extrêmes, les maires qui ont mis en sécurité énormément de personnes, hein, toutes les villes autour de Conques-sur-Orbiel, de Villegayenc, de Pénautier, d'Aragon, étaient sur le pont, étaient en contact avec les services de la sécurité civile. Par contre, à 4h du matin, en pleine nuit, les hélicoptères ne pouvaient pas décoller pour aller retrouver les gens qui étaient sur les toits.
Et c'est ce qu'on entendait.
C'est l'heure à laquelle c'est arrivé qui a rendu extrêmement difficile les opérations de sauvegarde et de secours.
Et c'est ce qu'on disait, on l'a entendu, Monsieur Romagnac, dans les journaux. Est-ce qu'il faut passer de vigilance orange à rouge à 4h du matin? Est-ce que vraiment ça a du sens? Puisque qui l'apprend? Je voudrais qu'on écoute deux questions successives, celle de Claude et celle de Marc, qui vont peut-être nous aider à aller un peu plus loin. Bonsoir Claude d'abord.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Même si les arguments que je viens d'entendre, hein, notamment sur la difficulté de localiser dans l'espace et dans le temps, hein, et puis d'évaluer l'événement dans toute sa puissance, me donnent déjà un élément de réponse. Mais la question, oui, que je me posais, c'était est-ce qu'on pourrait pas envisager un petit peu comme font les Américains lorsqu'il se présente un épisode dangereux, un événement dangereux. Voilà. Est-ce que eux n'hésitent pas à évacuer 1 million ou 2 millions de personnes? Et alors, bien sûr, ce serait pas à la même échelle, hein, pour nous. Mais enfin, voilà. C'est la question que je me pose.
Merci pour votre question, Claude. Bonsoir, Marc.
Allô. Bonsoir.
Et on vous écoute, Marc. Allez-y.
Bonsoir tout le monde. Oui, je pense. En 1940, on avait mis en place au plan national un très important réseau d'alerte par sirène. Pourquoi ce réseau a-t-il été démantelé au lieu d'être adapté?
Et on va poser la question tout de suite. C'est à vous, lieutenant-colonel, que je voudrais poser successivement ces deux questions. D'abord, évacuation. Ça paraît simple sur le papier, c'est évidemment extrêmement compliqué. Est-ce que ce serait envisageable d'évacuer plus? Est-ce que c'est des questions qu'on se pose à la sécurité civile?
Alors, les évacuations, pour vous répondre, c'est une décision compliquée à prendre. Compliquée à prendre, je vais vous comparer avec ce que disait votre auditeur sur les États-Unis. Les États-Unis, ce sont des évacuations qui ont été faites pour des cyclones, avec une anticipation qui était de 3 ou 4 jours sur une zone ciblée, et dans des régions très urbanisées, avec des autoroutes très importantes. C'est-à-dire qu'on est sur des autoroutes américaines dans les zones qu'on a évacuées, parce qu'on vous parle des zones urbaines qu'on évacue, on ne vous parle pas de zones rurales ou périurbaine loin, on évacue sur des grands axes et des populations très concentrées. L'évacuation d'une population d'un village ou d'une ville, il faut les faire partir, que les gens acceptent de partir, et on sait que ce n'est pas le cas. Pour vous donner des exemples bien connus de la sécurité civile, lors d'évacuation, lorsqu'on a des opérations de déminage, il est très compliqué de faire évacuer toutes les personnes, même sur des choses prévues. Quand on fait de l'évacuation en urgence, c'est de l'évacuation préventive, surtout pour un phénomène qui peut arriver. Il faut être capable de préciser et de localiser vraiment l'endroit où on veut évacuer. Une évacuation, si vous évacuez les gens et que vous les envoyez dans l'endroit où le sinistre finalement se produit, ce n'est pas l'idéal. Il faut vraiment être sûr.
Et surtout, la fois suivante, ils repartiront pas.
Vous avez des gens qui marchent pas. Vous avez des gens qui ont des appareils chez eux, des appareils médicaux lourds. Vous avez aussi, dans des zones d'évacuation, vous pouvez avoir des maisons de retraite, vous pouvez avoir des gens qui n'ont aucun moyen d'évacuation par eux-mêmes. Donc c'est très très compliqué à anticiper, avec des conséquences lourdes, avec un besoin en personnel qui est énorme.
Est-ce que l'autre hypothèse de l'auditeur, alors sans revenir au dispositif de 1940, mais l'idée d'une sirène par exemple, parce que Alex Romagnac nous a expliqué assez bien que c'est à 4h du matin que les choses sont devenues extrêmement compliquées et extrêmement dangereuses. Est-ce que l'idée d'une sirène, ça vous aiderait s'il y avait moyen de jouer à ça ou pas?
Alors, les sirènes d'alerte et d'information des populations existent toujours en France. Elles sont en train, partout en France, d'être sur un réseau national qui est un réseau qui est piloté. Les choix des sirènes ont été déterminés, les lieux pour mettre des sirènes en relation entre les préfectures et les communes. Mais le réseau des sirènes existe toujours, il a été modernisé, il a été repris sur un schéma, on va dire, national, un déclenchement, on va dire, unique et très rapide par rapport à l'ancien système. J'ai connu, il y a très longtemps maintenant, des sirènes qu'on déclenchait par bouton. Sauf que si vous ne pouvez pas atteindre le bouton, vous ne déclenchez pas la sirène. Donc voilà, maintenant, un système modernisé qui s'est mis en place ces dernières années en France et qui existe. Il n'y a pas en France de la disparition complète des réseaux de sirènes dans les communes.
Michel Proust, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de Villegaillenc, monsieur Proust. Il y a eu deux morts dans votre commune. On souhaitait vous avoir rapidement au téléphone, monsieur Proust. Sur ces questions-là, par exemple, à quel moment, vous, chez vous, vous le maire, vous avez été prévenu que quelque chose de grave était en cours?
Non, alors dans l'après-midi, nous avons eu le message... l'alerte orange, et donc à partir de là on envoie certaines informations à la population, mais ce sont maintenant des alertes qui sont assez fréquentes, donc c'est un peu plus difficile à expliquer, à faire comprendre aux gens que malgré tout il faut respecter. Mais surtout, ce qui s'est passé surtout, c'est que le phénomène qui est arrivé, puisque nous sommes inondés assez régulièrement, mais pas du tout de cette ampleur-là. Le phénomène qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément d'eau, beaucoup, beaucoup d'eau, et qui est arrivé très rapidement. C'est-à-dire que la première vague qui est arrivée, l'eau a atteint le premier étage des maisons. Donc par rapport aux autres phénomènes qui se produisaient, on n'a jamais connu ça.
C'est intéressant ce que vous dites, Michel Proust, notamment, il y a beaucoup d'alertes orange, dites-vous, et c'est pour ça que parfois c'est difficile de demander aux gens de partir. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait mieux graduer ces alertes? Parce que au fond, vous leur dites quoi quand l'alerte orange est là? Vous venez les voir, vous leur dites ce serait bien de faire attention, monter dans les étages, vous dites quoi?
La météo a quand même beaucoup évolué. Hein.
Ouais.
Donc c'est vrai que on n'a pas des alertes à tort et à travers, même si certaines personnes peuvent considérer qu'il y en a trop. Mais donc voilà, après le risque zéro n'existe pas, il ne pourra jamais exister. Et comme je le disais à l'instant, le phénomène que nous avons connu la nuit dernière n'a rien à voir avec ce que nous avons connu d'habitude.
Et ça veut dire que vous ne vous êtes pas, au fond, assez méfié, que vous ne pouviez pas imaginer que ce serait si important. En gros, c'est ce que vous nous dites, monsieur Proust.
Si, mais ça a été très vite. Ça a été très vite, voilà. C'est la différence par rapport aux autres fois.
Ce que vous dites, c'est que, est-ce que vous pensez qu'en termes d'alerte et de prévention, on n'aurait pas pu faire différemment, en fait, la nuit dernière?
Mais peut-être, ce qui est sûr, c'est qu'on va y réfléchir quand même. De toute façon, on peut toujours améliorer ce qui existe, hein. Donc nous allons y réfléchir, mais comme je disais, bon, de toute façon, ça a été tellement fort, que l'eau est montée partout en même temps et très vite, donc c'était pratiquement impossible, même en prévenant les gens. Bon, ils sont habitués quand même, c'est des phénomènes qui sont connus chez nous. Ils sont habitués, donc voilà, ils prennent facilement une place à l'étage pour ceux qui ont l'étage et tout, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement, mais là,
c'était plus compliqué. On vous a perdu, Michel Proust, mais on comprend dans vos explications effectivement comment la rapidité de la chose a rendu les choses beaucoup plus compliquées. Je vous ai pas oublié, Éric Daniel Lacombe, vous qui êtes architecte spécialiste des risques naturels. Il y a beaucoup de questions dans ce sens-là, et je reviens aussi à ce que nous disait Valérie tout à l'heure au début de ce téléphone sonne. Il y a des épisodes de ce genre de plus en plus régulièrement, mais les zones dévastées, en général, sont des zones qui étaient des zones inondables, des zones où les revêtements ne sont pas forcément les bons revêtements. On a l'impression qu'on n'apprend pas, mais en fait, si, rassurez-moi, on apprend d'une inondation à l'autre, non?
On apprend pas si vite que ça, en fait. Ces choses-là ont démarré en 88, il y a 30 ans, avec Nîmes. Mais ce que j'entends de vos réponses, soit des questions, soit des réponses, c'est qu'il y a trois niveaux sur lesquels on pourrait continuer à améliorer la formation ou l'apprentissage. Il y a un premier niveau de réponse sur le phénomène lui-même. Je crois qu'il faut qu'on soit plus simple. C'est-à-dire que j'ai passé l'été, moi, à vérifier ces questions de vulnérabilité et d'habitat, quel qu'il soit. On peut être en ville, ici on est dans un système plus rural. Je travaille beaucoup sur les campings, qui sont un lieu d'expérience tout à fait signifiant. Tout l'été,
et très vulnérable pour le coup, là.
Et c'est pour ça que j'y suis. Et tout l'été, j'ai suivi, finalement, la température de la Méditerranée. Donc on savait que ces phénomènes-là allaient se produire. Mais comment les expliquer ou les faire comprendre? Vous voyez, 300 millilitres, si je vous l'ai dit comme ça, en fait, si je parlais à un enfant de 5 ans, c'est 300 bouteilles d'eau sur un mètre carré, qui déroulent comme ça sur des versants entiers, qui traversent le canal du Midi, qui font des vagues et qui débordent. Il faut que ce phénomène-là puisse être pratiquement sensible pour qu'on puisse soit s'en méfier.
Vous pensez qu'on explique mal, en fait?
Absolument. Hein. Soit l'apprivoiser. Ma grande conquête est que déjà, dès le CME, on devrait, dès le CM2, on devrait être dans ces compréhensions. Vous imaginez, le deuxième niveau, c'est l'alerte. Qu'est-ce que veut dire une alerte à 3 heures du matin, en pleine nuit, si en plus vous êtes une personne fragile ou si vous avez votre famille qui est dispersée? C'est pratiquement incompréhensible. Je ne suis pas en train d'évaluer le système mis en place. Je dis juste qu'il faut qu'on soit plus simple. Et la meilleure des alertes, c'est celle qui fait que si on comprend le phénomène, on peut continuer à être maître de son destin. Et tout le monde dit qu'il faut partir. Mais le quartier que j'ai construit à Romorantin, qui est effectivement un quartier qui a résisté à 1,50 m d'eau, c'est qu'on avait formé pratiquement chacun des habitants à l'idée de pouvoir rester ou partir. Parce que de temps en temps, partir, ça sera pire que de rester. Et de rester, ça va simplifier le problème des pompiers, simplifier le problème des élus, simplifier le problème de l'État. Et de temps en temps, eh bien, des gens qui restent, on sait très bien qu'on ne pourrait pas évacuer Paris.
Alors, par exemple, il y a une députée de La République En Marche aujourd'hui qui dit il y a un problème sur les revêtements, notamment. Ce sont des revêtements qui n'absorbent pas assez, justement, et qui font que l'eau s'écoule et va directement provoquer des inondations dans les habitations. Est-ce que de ce point de vue-là, parce qu'on sait faire aujourd'hui, j'imagine, des revêtements qui peuvent résister mieux à des inondations, est-ce que de ce point de vue-là, effectivement, pour des questions d'économie, on continue à construire comme on le faisait il y a 15 ans, il y a 20 ans, ou est-ce qu'on a beaucoup progressé de ce point de vue-là?
Alors, cette députée a raison presque toujours. C'est-à-dire que l'imperméabilisation des sols est un problème qui complique les ruissellements. Mais si je vous explique les choses plus simplement, bien que je devrais dire que l'urbanisme ou l'urbanisation est peut-être la seule réponse. Je crois pas. C'est-à-dire que si la Méditerranée est chaude, voilà comment j'aimerais parler, les sols sont secs. Si les sols sont secs, quand ils prennent comme ça 300 millilitres d'eau en quelques heures, je vous assure qu'une surface d'herbe va les laisser couler aussi vite qu'un trottoir. Donc je suis pas en train de dire qu'il faudrait pas faire tout de manière imperméable ou pas. Je dis que les phénomènes-là devraient être mieux entendus, mieux sensibles à l'œil de chacun, et que là, l'architecture a transformé, elle est peut-être plus forte. C'est-à-dire que la métamorphose des lieux, vous voyez bien, ce sont des petits villages à flanc de coteau. On n'est pas sur la Côte d'Azur ici. C'est peut-être les rez-de-chaussée qu'il faut revoir. C'est peut-être la question de la démolition de certaines des maisons, et ça accompagné entre le dialogue de l'État et le dialogue local, qui est à mon avis la vraie question. C'est la correspondance entre les deux. C'est peut-être de remonter des choses à l'étage. Vous voyez, on ne peut pas rester un moment à un niveau de détail, puisque le problème est bien plus large.
Alix Roumaniac, vous qui êtes le président de Prédict, vous qui êtes expert dans la prévention des risques naturels, quand on vous dit on explique mal, ou peut-être en tout cas qu'on ne donne pas d'image suffisamment parlante pour que les gens réalisent réellement ce qui peut leur tomber dessus, est-ce que vous avez au contraire l'impression que vous répétez les mêmes choses, mais vous tapez un peu des coups d'épée dans l'eau, en fait?
Non, c'est un sujet, en ce moment on est sur ces événements-là, tous les éléments ont été indiqués, c'est-à-dire qu'on a une problématique de changement climatique, température de Méditerranée, comme vient de le dire Éric Daniel Lacombe, on a une problématique d'urbanisation dans certains cas, pas dans le cas qui nous concerne, puisque les communes qui ont été impactées sont des communes rurales, ce sont des tout petits villages dans lesquels l'urbanisation n'est pas très forte, et c'est vraiment les cumuls de pluie, les intensités de pluie qui ont provoqué ces ruissellements, et en rien une problématique d'imperméabilisation des sols que l'on peut connaître sur des crues urbaines. L'Aude, le département de l'Aude est certainement le département français qui, depuis les événements de 99, a mis en place une politique en termes d'aménagement de bassins versants, de réalisation de plans communaux de sauvegarde, de politique d'information par les documents d'information des populations. Il y a des exercices qui sont réalisés dans chacune des communes. Donc on est vraiment sur une phase de progrès. Il y a toute une politique avec la mémoire des crues sur l'installation et avec une formalisation des laisses de crues, des crues historiques. Hein, s'il y a le SMAR, qui est le syndicat d'aménagement des eaux, qui s'est créé après 99, qui fait un gros travail, mais il faut poursuivre ce travail. Et comme c'était indiqué, effectivement, on imagine les sirènes à 3h du matin, 4h du matin, quelqu'un qui dort ne va pas entendre une sirène. Par contre, c'est vrai, une encore plus grande conscience en se disant, tiens, j'ai en pleine nuit des choses qui se passent, je monte à l'étage. Voilà. C'est les bons réflexes, les attitudes, c'est dans cet esprit qu'a été lancée la fameuse saison 7-0 par le ministère. C'est vraiment quelque chose. La loi de modernisation de la sécurité civile, qui est sortie en 2004 avec son décret en 2005, met en avant un point qui est pas assez, sur lequel on n'insiste pas assez en France, c'est que le citoyen doit être acteur de sa propre sécurité. C'est-à-dire qu'on peut imaginer effectivement des dispositifs d'alerte, dispositifs d'organisation des communes, mais cette prise de conscience que c'est l'acteur qui est le mieux placé pour être acteur de sa sécurité, qui est inscrit dans la loi de 2004, c'est un sujet sur lequel il faut faire de la pédagogie et dire ce que ça veut dire. C'est pas l'État qui se défait de ses responsabilités, c'est que dans ce genre d'événement, ce n'est que par une pleine conscience des bonnes attitudes à avoir, des actions à mettre en œuvre, que l'on va continuer à diminuer les conséquences de ces événements.
Lieutenant-colonel, pardon, allez-y, finissez, monsieur Romagnac.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à dire parce que un bilan qui est tel que l'on connaît en ce moment est un bilan qui est trop lourd. Mm-hmm. Mais sans le travail qui a été fait par toutes les collectivités depuis des années, sans le travail qui ont fait les gens des collectivités territoriales sur ce département, sans le bilan serait beaucoup plus lourd ce soir. Il faut continuer à travailler, il faut encore, comme le disait tout à l'heure Michel Proust, on ne doit pas rester satisfait, il faut toujours remettre le travail sur l'ouvrage, on doit progresser, mais l'axe de progrès, c'est vraiment faire passer ce message, le citoyen acteur de sa propre sécurité, c'est vraiment un sujet d'avenir.
Lieutenant-colonel Bernier, il a raison, Alix Roumaniac, il faut voir un peu ce qu'on peut faire, nous, à titre individuel, et puis j'entends ce que vous disiez tout à l'heure, s'il y a une alerte qui résonne à 4h du matin, mais qu'il n'y a pas de structure autour, ça ne fait que générer une sorte de panique. Qu'est-ce qu'on dit aux gens lorsque l'eau est en train de monter pour que les choses se passent le plus calmement possible? Est-ce qu'on dit tout simplement, là, montez à l'étage le plus tôt possible? Est-ce qu'on leur dit, allez sonner chez vos voisins qui ont un étage, si vous n'en avez pas, le plus tôt possible, même en début de soirée? Quels sont les conseils aussi basiques qu'on peut demander aux gens quand on sait qu'on va être face à un phénomène dont on ne sait pas effectivement quelle sera sa très grande ampleur ou pas?
Alors, je vais revenir sur ce que disait à l'instant mon collègue en expliquant effectivement que le citoyen doit être acteur de sa propre sécurité et particulièrement avoir une culture qu'on appellerait une culture de sécurité civile. Alors la première réponse que je vais faire à votre question, c'est en France, il y a une grande mission qui a été lancée et c'est une ambition annoncée par le président de la République, reprise par le Premier ministre, c'est de former 80% de la population, vous savez, aux gestes qui sauvent. Et dans ces formations aux gestes qui sauvent, on apprend aussi aux gens les bons réflexes. Qu'est-ce qu'on fait quand une sirène sonne? Qu'est-ce qu'on fait au moment où il y a une alerte? Pas que faire du secourisme pur, mais aussi savoir se comporter et savoir comment réagir. Et je pense, et je le rejoins complètement sur vos deux interlocuteurs précédents, sur le besoin de formation de la population depuis le plus jeune âge à avoir les bons comportements et à avoir les bons réflexes. On le sait, et vous en avez tous entendu parler, on a des exemples de jeunes enfants qui arrivent à sauver des vies parce qu'ils ont appris tout jeune qu'on devait faire le 18 et dans quel cas ou le 15 ou le 112 selon les besoins. Mais c'est la même chose pour les populations qui peuvent être sinistrés, de connaître effectivement ces bons réflexes, qui peuvent être de grimper à l'étage, qui sont surtout des réflexes. Ne partez pas de chez vous, ne prenez pas la voiture tant qu'on ne vous l'a pas dit. Écoutez sur la radio les consignes de la préfecture. Le réseau de France Inter, dont vous faites partie, est chargé de transmettre les consignes et le fait très bien.
Le réseau de Radio France, oui, absolument.
Voilà. Pour transmettre, excusez-moi, les consignes à la population en cas de besoin, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. En fonction du risque, et je ne parle pas là que du risque inondation, je parle de tous les risques qu'on peut trouver, risques naturels, je reprends l'exemple du feu de forêt qui est connu aussi dans la région, on a des comportements à adopter, soit à connaître, soit à écouter et à suivre. Donc effectivement, sur ce genre de phénomène, c'est de se rappeler déjà les règles de bon sens que je vous donnais à l'instant. On ne s'en va pas, on ne sort pas dans une inondation. L'eau entraîne tout. Quand on voit la puissance des courants pour emmener des voitures, pour effondrer des routes, pour effondrer des ponts, une personne à pied dans l'eau n'a quasiment pas de chance de survie, sauf si on lui a dit vous pouvez y aller à cet endroit-là et qu'elle est guidée.
Et ça se voit d'ailleurs, ça se voit avec les images qu'on voit aujourd'hui, quand une bande d'asphalte est soulevée par l'eau, on mesure la puissance que l'eau peut avoir, c'est phénoménal en fait.
Exactement, et l'eau, vous ne l'arrêtez quasiment pas, il n'y a quasiment pas de moyen de l'arrêter. On peut essayer de la canaliser à un moment, mais sur des événements, je vais qualifier de violents et de rapides, comme ça s'est passé cette nuit, elle va aller partout où elle va pouvoir. Si vous êtes sur son chemin à un endroit où le courant est fort et où le débit est très important, vous n'aurez pas la force physique pour ne pas être emmené. Donc voilà, la première des règles, c'est vraiment, on ne sort pas quand il y a une inondation, effectivement rejoindre un point haut, effectivement avoir le réflexe, si ce n'a pas été le cas, mais généralement c'est assez rapide, de couper l'électricité. Alors, c'est pas très agréable, mais vous éviterez de mettre les prises du bas dans l'eau, dans l'eau électricité, d'avoir de très mauvaises surprises. Voilà, c'est vraiment des réflexes de base, des réflexes de tous les jours qu'on doit avoir. Et je reviens sur le point vraiment important.
Très vite, si vous voulez bien.
C'est la nécessaire formation de la population aux gestes qui sauvent et aux comportements à adopter.
Je voudrais qu'on retourne au standard, au 01 45 24 7000. On va écouter Yoannick et Brigitte l'un après l'autre. Bonsoir Yoannick.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Moi, je me pose la question. Voilà, moi, j'habite le long du Tarn, donc c'est une rivière qui régulièrement monte en crue lors d'épisodes sévenols. On a connu notamment une grosse inondation en 1982, puis 94, puis 2014. Moi, j'ai vu des zones remplies d'eau qui aujourd'hui sont construites entièrement, qui sont remplies de villas. Donc, je voudrais savoir à un moment comment sont décidées ces zones inondables. Comment est-ce qu'on peut 20 ans après une énorme inondation, construire dans ces zones-là qui étaient remplies d'eau.
Merci beaucoup Yoannick. Brigitte, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on
vous écoute. Ma question va un peu dans le sens de l'intervention là à l'instant. Moi, je me demande, à l'heure où on sait que l'urbanisation frénétique et son discernement d'un littoral peut avoir des conséquences dramatiques et mortelles, il y a un projet de loi, ça s'appelle le projet de loi Élan, qui est étudié en ce moment. D'accord, et qui permettrait aux maires de délivrer des permis de construire sur n'importe quelle zone du littoral à plus de 100 mètres du rivage. Comment est-ce qu'on peut débattre d'une loi pareille et prendre les gens pour des imbéciles? Parce que moi, je veux bien qu'on soit formé. Moi, j'habite en Guadeloupe, à Marie-Galante précisément, et les enfants sont formés, j'ai des maternelles, on fait des exercices régulièrement, les enfants sont formés, on sait où on se met, où ils vont, un séisme, etc. Mais bon, si on construit une zone inondable, on peut être formé tout ce qu'on veut, c'est inondable, c'est inondable.
Merci beaucoup.
Il faut arrêter de bétonner partout.
Merci. Voilà. Brigitte, merci beaucoup pour votre question. C'est pour vous ça, Éric Daniel Lacombe. Il y a des endroits où on ne construit plus du tout. On met des croix sur les maisons. Ça a été le cas après une catastrophe comme autour de la Faute-sur-Mer. Il y a des endroits, effectivement, où on construit toujours dans les zones inondables. Comment c'est possible ?
À la Faute-sur-Mer, on avait construit derrière une digue. Donc en fait, on avait rendu le risque invisible. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus on rendra le risque visible, soit dans la dimension quotidienne, soit dans la dimension culturelle, plus on risque de mieux réagir. Je comprends les colères sur...
Ce que dit Yoannick, par exemple, on a reconstruit dans un endroit que lui a vu il y a 20 ans rempli d'eau à cause d'une inondation.
Oui, mais bien sûr qu'on... Tout le monde peut faire des bêtises, et j'en vois tous les jours. Il n'empêche aussi que quand on peut construire de temps en temps de ce qu'on appelle maintenant l'architecture résiliente, on sait fabriquer des choses qui laissent une transparence hydraulique, qui fabriquent des abris quand même bien plus sûrs, qui permettent à des familles, voire des quartiers entiers, de se regrouper. Donc, on voit bien qu'on est entre deux tentations. Soit on écoute d'un côté ce qui serait l'immobilisme ou l'interdiction de tout, et à mon avis c'est un piège, mais au-delà de se dire qu'on fait que des bêtises, se dire qu'on a d'autres types de réflexions qui mettent toujours ce que j'appelle l'architecture engageante, incitatrice, qui est celle qui vous fait lire le sens du courant, la hauteur de l'eau, la vitesse, et qui vous fait dire à vous tout seul qu'il faut y aller ou pas y aller, rester ou monter d'une marche, vous voyez, comme on serait sur une plage à marée haute.
Mais est-ce que la loi Élan, par exemple, je me souviens plus, Brigitte, je crois, n'est pas la seule Brigitte à poser cette question. Est-ce que c'est la tarte à la crème, la loi Élan, ou est-ce qu'effectivement on risque de se retrouver avec des cas comme celui-là, au fond?
En fait, je crois pas. Je trouve que l'État et les services, ce qu'on appelle de la prévention des risques, font un travail formidable parce qu'ils ont une expérience. Je le redis, la vraie question, c'est comment on va faire pour articuler un dialogue créatif, inventif, entre l'État et le local. Bien sûr, le local, pour des raisons touristiques de temps en temps, aurait envie de faire un développement pour trouver une énergie à son pays, et l'État pourrait interdire. Mais si on interdit tout, on ne fera pas et on se privera des vraies capacités de transformation qui sont celles, à mon avis, de notre avenir, de transformation de temps en temps, de démolition et aussi de construction. On ne peut pas s'arrêter sur un champ ou sur un autre. Quant aux abris, ils ne seront pas individuels, il nous faut inventer des nouveaux modes de société. Si vous allez au Japon, les abris sont collectifs, ils réunissent comme ça un groupe de familles. Aux États-Unis, c'est la même chose. Donc ces petits hameaux, ces villages dont on parle,
c'est ça que pourraient dire. Être... On sait faire sur les très grosses catastrophes, dans les très grosses zones, c'est beaucoup plus compliqué sur les petites catastrophes, mais quand il y a 12 morts, on n'est plus à une
c'est
petite
catastrophe.
C'est une grosse catastrophe. Voilà. On est, mais dans des petites zones.
Bien sûr, c'est une grosse catastrophe, mais c'est un enjeu absolument formidable. Et bien qu'il soit ce soir excessivement triste.
Excessivement triste. Comme vous dites, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence dans Téléphone Sonne. Merci à tous qui, encore une fois, avaient été très, très nombreux à appeler. Merci particulièrement à Michel Proust dans sa ville qu'on a eu rapidement au téléphone parce qu'il a évidemment d'autres chats à fouetter en ce moment, tout comme d'ailleurs la sécurité civile et Alix Roumania qui sont en alerte rouge, eux aussi, évidemment, dans leur zone respective. Merci à tous et portez-vous bien.